VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 9 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Ghana, l'opposant Nana Akufo-Addo crie victoire, mais le dépouillement du scrutin présidentiel d'hier est loin d'être terminé.
En République démocratique du Congo, le dialogue politique de la dernière chance lancé hier à Kinshasa devrait entrer dans le vif du sujet ce vendredi.
L'ONU a appelé les groupes armés en République centrafricaine à respecter le droit humanitaire, notamment à Bria.
L'armée syrienne a interrompu ses opérations de combat à Alep pour permettre l'évacuation des civils.
Et John Glenn, le premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre, est mort hier à Columbus dans l'Ohio à l'âge de 95 ans.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le candidat d'opposition Nana Akufo-Addo a proclamé sa victoire jeudi soir au Ghana dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle. Cependant, seuls les résultats de 25 des 275 circonscriptions du pays ont été jusqu'à présent annoncés par la commission électorale et l'avance très courte oscille à chaque nouveau résultat local entre le président John Mahama, qui brigue un second mandat à 58 ans, et M. Akufo-Addo, qui se présente à 72 ans pour la troisième fois. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'opposant Akufo-Addo a prononcé un discours de victoire et s'est dit confiant d'avoir remporté une victoire historique. Deux radios ont donné ce dernier gagnant avec respectivement 53,96% et 52,70% des voix. Ces estimations ainsi que des déclarations de M. Akufo-Addo lui-même, disant avoir été félicité déjà par les autres candidats, attisent les tensions et font courir les rumeurs. Pour sa part, la commission chargée d'assurer le bon déroulement du scrutin veut qu'il soit aussi transparent que possible, grâce notamment à un système de vote perfectionné et que les résultats soient officiellement publiés circonscription par circonscription. La commission assure aux Ghanéens que les résultats définitifs seront prêts dans les 72 prochaines heures, a déclaré son porte-parole Eric Zapassou. Si personne n'atteint les 50%, les adversaires arrivés en première et deuxième position se retrouveront pour un second tour d'ici la fin du mois.
11 membres de l'opposition gambienne ont été libérés sous caution hier après les élargissements cette semaine d'une dizaine d'autres opposants. Abdourahmane Dia.
Ces 11 membres du Parti démocratique uni UDP, principale formation de l'opposition, avaient été arrêtés le 14 avril lors d'une marche conduite par Solo Sendeng, l'opposant mort en détention. Ils avaient été jugés et condamnés en juillet à 3 ans de prison ferme pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Leurs avocats avaient fait appel. Le juge leur a accordé la liberté sous caution. Une dizaine d'autres opposants ont déjà été relâchés. Le 5 décembre, 19 opposants, dont Ousseynou Darbo, condamné à 3 ans de prison ferme, ont également été libérés sous caution. L'UDP est une des composantes de la coalition de 9 partis soutenant Adama Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier, face à Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans.
Le Libéria a demandé à l'ONU de proroger la présence de sa force dans le pays jusqu'à l'élection présidentielle prévue en 2017. Claire Morin-Gibourg.
Lewis Brown, représentant du Libéria à l'ONU, a demandé au nom de son gouvernement une prolongation d'une année de la mission de l'ONU au Libéria. Elle devra aider à la sécurité jusqu'à l'installation d'un gouvernement démocratiquement élu. Les Libériens seront appelés aux urnes en 2017 pour élire le successeur à l'actuelle présidente, Ellen Johnson Sirleaf, qui aura bouclé 2 mandats à la tête du pays. Madame Sirleaf est devenue en 2005 la première africaine élue présidente, obtenant la même année le prix Nobel de la paix. Elle a été réélue en 2011. Le Conseil de sécurité doit prendre ce mois-ci une décision sur le maintien ou non de son personnel, qui compte quelques 1800 casques bleus. La MINUL, dont les effectifs ont cumulé à plus de 15 000 soldats, était chargée en 2003 d'assurer la sécurité et la protection de la population après 14 ans de guerre civile meurtrière au Libéria.
En République démocratique du Congo, le dialogue politique de la dernière chance, lancé hier à Kinshasa, doit permettre de débattre en petit comité de quelques pommes de discorde congolaise, comme l'avenir du président Joseph Kabila, la date de la présidentielle et l'organisation de la période de transition à venir. L'enjeu des négociations conduites par l'Église catholique est de trouver un accord permettant d'organiser une transition jusqu'à l'élection du successeur du chef de l'État congolais au pouvoir depuis 2001.
Le mandat de M. Kabila s'achève le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Mais la non-tenue de la présidentielle dans les temps, dénoncée par avance depuis des mois par l'opposition, crée un climat politique délétère. Les négociations doivent entrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Au Cameroun, les affrontements entre la police et des manifestants hier à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, l'un des fiefs de la minorité anglophone en colère, ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État, CRTV, tandis que le Social Democratic Front, formation d'opposition, parle de 4 morts.
République centrafricaine, les Nations Unies ont appelé hier les groupes armés en RCA à respecter le droit humanitaire, notamment à Bria, où des affrontements entre factions rivales fin novembre ont fait une centaine de morts. Ces affrontements ont engendré une nouvelle crise humanitaire avec plus de 12 000 déplacés, indique le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans un communiqué. Ce regain de violence déplorable a contraint les acteurs humanitaires à réduire temporairement l'ampleur de leur présence à Bria et ses environs, ainsi qu'à Bamba. Paris, précise-t-on dans le même communiqué.
La première parlementaire américaine musulmane d'origine somalienne a affirmé avoir été la cible d'une diatribe haineuse et islamophobe émanant d'un chauffeur de taxi à Washington, la capitale fédérale. Nandit Talani.
Ilhan Omar, ancienne réfugiée de 33 ans qui porte un hijab, raconte sa mésaventure sur sa page Facebook. Elle évoque des provocations et menaces proférées par un taximan alors qu'elle venait de participer à des discussions à la Maison-Blanche et rentrait à son hôtel. Selon elle, le chauffeur de taxi l'a accusée d'appartenir au groupe État islamique et l'a menacée d'enlever son hijab. Elle dit avoir rapidement quitté le véhicule et a indiqué avoir l'intention de signaler l'incident dès son retour dans l'État du Minnesota, où elle a remporté le 8 novembre un siège à la Chambre des représentants. Madame Omar est une immigrée somalienne arrivée aux États-Unis à 11 ans avec sa famille. Sa victoire électorale a été d'autant plus remarquée qu'elle est survenue en marge d'une campagne présidentielle virulente envers les musulmans. Donald Trump a remporté la course à la Maison-Blanche et le même jour, elle célébrait sa propre victoire dans l'État du Minnesota.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée syrienne a interrompu ses opérations de combat à Alep pour permettre l'évacuation des civils, a annoncé jeudi à Hambourg le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Les précisions de John Linden.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les opérations de combat de l'armée syrienne ont été interrompues dans l'est d'Alep parce qu'il y a une grande opération en cours qui est l'évacuation des civils, a-t-il déclaré à marge d'une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il va y avoir une colonne d'évacuation de 8000 personnes. Leur itinéraire fait 5 km, a poursuivi Sergueï Lavrov. Il a par ailleurs annoncé que des tractations russo-américaines se tiendront samedi à Genève pour terminer le travail. Interrogé par des journalistes, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a estimé que c'est une indication que quelque chose de positif pourrait se produire. 6 pays occidentaux, dont les États-Unis, avaient appelé mercredi à un cessez-le-feu immédiat devant la catastrophe humanitaire à Alep. Ils exhortaient la Russie et l'Iran d'user de leur influence sur le régime syrien pour obtenir une trêve dans l'est d'Alep.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a défendu hier la composition de sa future équipe gouvernementale après la nomination de 2 conservateurs idéologiques à l'environnement et au travail. Ces choix ont été critiqués par les écologistes et les syndicats.
Le prochain chef désigné de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Scott Pruitt, est un héros conservateur pour son combat contre les réglementations environnementales imposées par l'agence qu'il va maintenant diriger. Il a même intenté un procès pour les annuler.
Un pionnier de l'espace nous a quittés. John Glenn, premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre, est mort jeudi à Columbus dans l'État de l'Ohio à l'âge de 95 ans. Précision de Timothée de Nangmaï.
La nouvelle de sa mort, des suites d'une maladie, a été annoncée par la faculté de l'Université de l'Ohio portant son nom. Nous sommes attristés par la perte du sénateur John Glenn, le premier Américain à orbiter la Terre. Un vrai héros américain, a réagi pour sa part l'agence spatiale américaine, la NASA, sur Twitter. C'est en février 1962 que Glenn est devenu le premier astronaute américain à réaliser un vol en orbite autour de la Terre à bord de la capsule Friendship 7. Le soviétique Yuri Gagarin l'avait précédé l'année d'avant, mais son retour en 1998 dans l'espace à 77 ans fera de Glenn le plus vieil astronaute à réaliser cet exploit. Après sa carrière d'astronaute, l'ancien pilote de chasse était devenu sénateur démocrate de l'Ohio de 1974 à 1999. Le président Barack Obama, qui l'a décoré en 2012 de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute récompense civile aux États-Unis, lui a rendu hommage jeudi, rappelant qu'il avait inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'astronautes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le groupe français Orange a annoncé le lancement de la marque du même nom au Maroc. Elle remplace Meditel, qui devient Orange Maroc, et servira 55 millions de clients arabophones dans cette région. Avec 14,2 millions de clients, l'opérateur marocain est la deuxième plus importante filiale de France Orange en nombre d'abonnés au Moyen-Orient et en Afrique, après l'Égypte. Elle contribue à près de 10% de son chiffre d'affaires dans cette région. En Mauritanie, le gouvernement choisit la société chinoise Polytechnologie pour construire un nouveau port militaire et commercial dans la commune de Ndiago, au sud de Nouakchott. Entièrement financée par l'État, cette nouvelle structure, qui coûtera 325 millions de dollars, abritera un port militaire, un port de pêche, un chantier naval d'une capacité de 70 navires par an et un quai de commerce pouvant accueillir des bateaux de 180 mètres de long et un point de débarquement pour la pêche artisanale. Et pour terminer, le gouvernement du Mozambique a délibérément violé la loi en se portant garant d'emprunts d'entreprises publiques pour plus de 2 milliards de dollars dans le cadre du scandale dit des dettes cachées, vient de révéler une commission d'enquête parlementaire. Le FMI a suspendu ses prêts, suivi de la Banque mondiale, détériorant sérieusement la situation financière du Mozambique, déjà touchée par la crise des matières premières.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La Coupe du Monde des clubs a démarré au Japon.
Le club japonais des Kashima Antlers a remporté 2-1 ce match d'ouverture à Yokohama face à l'équipe néo-zélandaise d'Auckland. À suivre dimanche, les matchs du deuxième tour, l'entrée en lice du champion d'Afrique, les Mamelodi Sundance contre ces mêmes japonais de Kashima. Le club américain de Mexico City affrontera les Sud-Coréens de Jeonbuk Hyundai FC.
La FIFA a radié à vie deux ex-dirigeants africains.
Jonathan Musavengana, ancien responsable de la fédération zimbabwéenne, et Bana Chanile, ex-sélectionneur du Togo, ont été radiés à vie du monde du football pour des faits de corruption. C'est ce qu'annonce la FIFA. L'ancien président de la fédération sud-africaine, Kirsten Nematandani, a pour sa part été suspendu 5 ans. Les trois hommes ont été reconnus coupables d'avoir violé les règles éthiques à l'occasion des matchs internationaux amicaux disputés en Afrique du Sud en 2010. On se rappelle qu'entre octobre 2015 et mars 2016, 4 anciens dirigeants de la fédération sud-africaine avaient déjà été sanctionnés d'années de suspension dans le cadre de la même affaire.
L'Europa League en Europe, la 16e et dernière journée.
Après des débuts difficiles, Manchester United a assuré sa qualification 16e de finale grâce à sa victoire contre Luhansk 2-0 lors de la dernière journée de la phase de poule à Odessa. Malgré sa défaite 2-0 face à l'Apoel Nicosie, Olympiakos qualifié pour les 16e de finale. Le Rapid de Vienne fait match nul 1-1 avec l'Athletic Bilbao. Le FC Astra, le club roumain, qui fait match nul 0-0 contre l'AS Rome. Et puis le Viktoria Plzeň, le club tchèque, qui bat l'Austria de Vienne 3-2. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota 110, Toronto 124, Denver 85, Washington 92, Portland 86, Memphis 88, Philadelphia 99, New Orleans 88 et Golden State Warriors 106, Utah 99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, comme prévu, un deuxième dialogue politique s'est ouvert hier à Kinshasa sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le président Joseph Kabila et l'opposant historique Étienne Tshisekedi n'étaient pas dans la salle, mais leurs délégués ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ce nouveau forum. L'objectif est de trouver un compromis politique sur la gestion de l'après 19 décembre 2016, date qui marque, selon la Constitution, la fin du mandat du président Kabila. Reportage de Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'heure est grave, a dit le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, à l'ouverture des discussions. Le ton a été donné pour que les échanges se déroulent dans la sérénité et ouvrent le chemin de l'organisation d'élections démocratiques crédibles et apaisées. Pour Monseigneur Marcel Outembi, il faudra s'attendre à des concessions dans les deux camps.
Cet peuple attend principalement que les conclusions de ces travaux conduisent urgentement à la réconciliation entre les acteurs politiques, à la paix et à l'organisation des élections démocratiques, crédibles et apaisées, afin d'ouvrir le chemin vers l'alternance politique pacifique, comme l'exige la Constitution. Toutes les attentes mentionnées ci-haut signifient que les exigences rigides qui quelquefois pour caractériser les positions des uns et des autres, devront céder à la concession et au compromis.
Les travaux se tiennent sous la médiation de la CENCO. Au total, 30 participants, d'une part 15 signataires de l'accord du 18 octobre conclu lors du dialogue organisé à la Cité de l'Union africaine, d'autre part 15 membres de l'opposition qui étaient absentes à ce dialogue et avaient récusé le facilitateur Edem Kodjo. 6 points de divergence soulevés par les évêques catholiques seront au centre des débats: l'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la Constitution figurent parmi les sujets qui divisent les deux camps. Pour le député Deli Sesanga du Rassemblement des forces acquises au changement, il faut attendre une solution à la crise créée par la majorité présidentielle.
Nous voulons aujourd'hui qu'on puisse trouver une solution définitive à la crise qui secoue notre pays depuis plusieurs années et que l'on puisse restaurer dans la paix, la stabilité, l'ordre constitutionnel qui a été rompu par la majorité en place. Aujourd'hui, nous nous battons pour la tenue effective des élections présidentielle et législative dans le meilleur délai et donner à ce pays les institutions légitimes que le peuple mérite.
À la majorité présidentielle, on s'appuie toujours sur l'accord du 18 octobre et on attend des propositions du Rassemblement. Lambert Mende espère un consensus sur les questions qui divisent.
Le dialogue a déjà commencé, il s'est terminé par un consensus. Il y en a qui étaient absents. Nous souhaitons élargir ce consensus dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt même de ceux qui étaient absents et dans notre intérêt de nous qui étions là, parce que tous nous sommes propriétaires de ce pays. Pour aboutir à des élections apaisées, aboutir à des élections fiables et transparentes pour notre peuple.
Les travaux ouverts ce jeudi devraient durer 3 jours, selon Monseigneur Marcel Outembi. Depuis Kinshasa, Roger Kalala de Top Congo pour La Voix de l'Amérique, Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le procès d'Amadou Aya Sanogo et 17 co-accusés a été renvoyé au mois de février 2017, et ce pour permettre au laboratoire Mérieux de faire un rapport d'expertise médicale des 21 victimes. De Sikasso, notre correspondant Kassim Traoré.
À la reprise ce jeudi 8 décembre 2016, la cour s'est fait attendre, une heure de retard. Le président de la cour, dès son rentrée dans la salle, a statué sur les exceptions de la défense. Elle a demandé de reprendre l'expertise des 21 corps et renvoyer le procès à la prochaine session de la cour d'assises. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense.
C'est l'ambassade des États-Unis qui a été désignée comme expert. Une ambassade ne peut pas servir d'expert. Ne pouvant pas faire le travail, elle est allée sous-traiter le dossier au FBI. Le FBI ne pouvant pas faire le travail, lui aussi allait sous-traiter à des experts portugais. Alors que la loi exige qu'il prête serment devant le juge d'instruction. Dans ces conditions, les experts n'ayant pas prêté serment, les experts n'étant pas connus, la cour a décidé que leur travail n'est pas bon.
La cour va loin. Elle a décidé que c'est le laboratoire Mérier de Bamako qui fera l'expertise des corps dans un délai de 45 jours. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes.
Les parties civiles sont un peu rassurées qu'effectivement, elles pourront, à la suite du rapport qui va être déposé, elles pourront aller tout droit vers un procès. Et les rapports d'expertise peuvent nous permettre de savoir comment ils ont été assassinés, avec quelles balles, est-ce que c'est les balles de l'armée malienne. Les rapports peuvent déterminer tout ça. Et ça participe à la manifestation de la vérité.
Si certains avocats et accusés sont satisfaits du renvoi du procès, tel n'est pas le cas de Maître Alassane Sangaré, avocat de l'ancien ministre de la Défense Yamoussa Camara.
Yamoussa n'est pas un justiciable de cette cour d'assises. Et même le juge d'instruction qui a connu de son dossier n'était pas le juge d'instruction habilité à le faire. Parce qu'au moment où il faisait les choses qui lui sont reprochées, au moment où il a été interpellé, inculpé, mis sous mandat de dépôt, ces choses-là avaient été reprochées à Yamoussa dans l'exercice de ses fonctions. Donc la loi est très claire en ce domaine.
Ce renvoi est aussi une manière de mettre en cause la mauvaise organisation de cette assise, même si le parquet est satisfait de l'arrêt de la cour. Mamadou Lamine Koulibaly, procureur général près la cour d'appel de Bamako.
Des impressions de satisfaction parce que nous respectons les décisions de justice, nous respectons la cour d'assises. Sur ce plan, on exécute les décisions de justice. Je suis satisfait. Satisfait parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant.
Les avocats de la défense vont introduire une demande de liberté provisoire pour tous les clients au niveau de la chambre d'accusation, alors que cette demande a été rejetée par la cour. Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Kenya, les médecins et infirmières ont menacé hier d'étendre aux établissements privés la grève qui paralyse depuis lundi les hôpitaux publics du pays. Environ 5000 professionnels de la santé réclament une multiplication des salaires. Les syndicats ont rejeté mercredi l'offre du gouvernement d'une hausse de 50 000 shillings. Entre-temps, au moins 14 patients sont décédés dans des hôpitaux publics en raison du manque de soins. Eric Manirakiza a joint à Nyeri un des médecins qui pratique dans le privé, le docteur Eric Nyandoui.
C'est vraiment la paralysie totale. Tous les hôpitaux sont vides. Les patients ont dû quitter à partir de ce lundi, le jour où ils ont décidé de commencer la grève. On voit que vraiment c'est de la paralysie totale. Rien ne fonctionne. Et nous qui sommes dans le secteur privé, on est débordés par les patients parce qu'ils quittent le secteur public pour le secteur privé. On a vu dernièrement des patients qui étaient dans des transports publics avec des sondes nasogastriques. C'est vraiment très grave ce qui se passe ici au Kenya.
Donc si vous êtes débordés, vous faites en même temps une bonne affaire.
C'est une bonne affaire, mais c'est vraiment très dur. Si on est habitué à avoir à peu près une soixantaine de patients par jour et qu'on est obligé de recevoir plus de 150, c'est vraiment très grave. Et ça devient pire parce que le médecin qui travaille dans le secteur public et en même temps dans le secteur privé pour ce qu'on appelle les locums, ils ont été obligés d'arrêter aujourd'hui. Par exemple, là où je travaille, on est deux médecins. Le deuxième médecin qui était dans le secteur public, qui venait m'aider, a décidé de stopper aujourd'hui pour suivre le mouvement que l'association lui avait demandé. Donc nous travaillons seuls.
Il y a un blocage entre le gouvernement et les syndicats et le personnel en grève a menacé d'étendre la grève au niveau des établissements privés. C'est quoi exactement? Est-ce que vous allez arrêter le travail?
Ça va dépendre de nos patrons parce que nous qui sommes dans le secteur privé, on ne peut pas arrêter de travailler comme ça. On risque d'être renvoyé à la maison. Ce qui se passe, c'est que l'association a décidé de parler aux patrons des hôpitaux, de pouvoir les aider aussi. Ça va s'arrêter à partir du 13, ça veut dire le mardi prochain. Ils ont demandé au secteur privé d'arrêter seulement pendant 24 heures. Ça veut dire qu'à partir de lundi minuit jusqu'au mardi minuit, il n'y aura pas de service dans le secteur privé si les patrons de ces secteurs suivent le mouvement.
Pas même un service minimum prévu ce jour-là?
Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont décidé que dans le secteur public, à Kenyatta Hospital, à Nairobi, ils faisaient des services minimums. Aujourd'hui, ils ont arrêté même les services minimums. Et chez nous, nous attendons toujours la communication de nos patrons.
C'était le docteur Eric Nyanoui à Nyeri, au Kenya.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad, appuyées par la Russie et l'Iran, semblent se diriger vers la reprise de la vieille ville d'Alep dans le nord du pays. Pour le président syrien, la conquête de cette ville représenterait un tournant dans la guerre. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Philippe Migaud, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie.
Et oui, parce que c'est la reprise de la dernière grande agglomération qui restait aux mains de l'opposition à Bachar el-Assad, que la chute d'Alep est symbolique, parce que c'est la reprise d'une place forte des opposants à Bachar el-Assad. Et puis aussi, cette prise de la ville va permettre de libérer des moyens militaires qui vont permettre de poursuivre la reconquête de la Syrie, que ce soit dans la région d'Idlib ou davantage vers l'est, dans la direction de Raqqa. Donc oui, très clairement, c'est une très grande victoire et c'est vraisemblablement un tournant dans la guerre, oui.
La chute d'Alep témoigne-t-elle de l'échec de la communauté internationale, mais d'une montée en puissance de la Russie avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier ?
Alors je pense que la montée en puissance de la Russie, elle est évidente et cela depuis plusieurs années maintenant, donc elle est absolument incontestable, que ce soit dans le dossier syrien ou dans d'autres dossiers. Est-ce que c'est un échec de la communauté internationale ? C'est très clairement un échec occidentale, dans la mesure où les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à forcer la main à la Russie sur le dossier syrien. Pour autant, est-ce un échec de la communauté internationale ? Non, je ne pense pas, parce que la communauté internationale ne se réduit pas aux seuls occidentaux. Très clairement, c'est un échec des occidentaux vis-à-vis de la Russie. Ça, oui, c'est certain. Je pense que le plus probable, c'est que Alep, les restes de la poche d'Alep seront liquidés avant la fin de l'année 2016.
Donald Trump, pendant la campagne électorale, a été très critiqué par ses adversaires ici aux États-Unis. Au sujet de ses supposées relations avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation ?
Écoutez, je pense que c'est une défaite majeure pour l'administration Obama, peu de temps avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche. C'est vraisemblablement une leçon pour les Occidentaux qui ne voulaient pas admettre depuis plusieurs années que la Russie était revenue au premier plan sur la scène internationale. Et je pense que Donald Trump va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec la Russie, sur des bases, j'imagine, plus réalistes, en tout cas j'espère plus réalistes, de ce qu'est la puissance russe et de l'intérêt de s'en faire un partenaire, non pas un ennemi, sur la scène internationale.
C'était de Paris, Philippe Migaud, de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde, aujourd'hui VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.